Radio Kapi.
Lutte contre la troisième vague de Covid-19, contrôle systématique du port de masque à Goma depuis ce matin. Tout le monde sans exception est soumis à cette opération. Les récalcitrants seront sanctionnés, prévient la police ville de Goma. Nord Kivu encore, écoles et marchés restent fermés aujourd'hui et demain mardi à Beni. Décision du maire de la ville après l'explosion des deux bombes artisanales hier dans ce coin du pays. Les bouclages et les perquisitions ne sont pas à exclure à printemps. Et puis, l'invité de ce soir, Sabin Sadiboko, haut fonctionnaire de l'administration publique et inspecteur provincial de la territoriale pour le Congo central, en marge de l'anniversaire de l'indépendance de la RDC cette semaine. Sabin Sadiboko fait l'analyse du discours du roi Baudouin Ier du 30 juin 1960. Madame, messieurs, bonsoir. Commençons par le Nord Kivu. À Goma, la police procède depuis ce matin au contrôle systématique du port des masques obligatoires dans les véhicules, aussi bien des particuliers que des transports en commun. La police est visible sur tous les coins névralgiques de la ville où tout le monde est soumis à ce contrôle. Le commissaire urbain de la police dit mettre ainsi en application les recommandations du chef de l'État pour stopper la propagation de la troisième vague de Covid-19, la plus ravageuse selon les experts. Colonel Job Alissa explique au micro de Gabriel Ouamenia.
Il y a des conditions que le chef donnait, par exemple le port des masques qui sont obligatoires partout. Par rapport à ça, d'ailleurs, à partir de maintenant, je vais fouiller, contrôler dans tous les véhicules, les bus, partout sur la voie publique. Les gens qui ne portent pas ces masques, en tout cas, ils seront sanctionnés par rapport à ces comportements-là. Donc, qu'ils soient motards, qu'ils soient chauffeurs taxi-bus, lorsqu'ils embarquent les gens, ils doivent vérifier réellement si les gens, les passagers, ils sont bien avec toutes ces mesures qui sont données. Les gens qui ne portent pas des cache-nez, les gens qui sont sur la voie publique, là, on contrôle. Le chef de l'État, c'est notre commandant suprême. Au-delà de lui, je ne sais pas qui violerait ses instructions. Il peut échapper à des sanctions communes. Donc, quelle que soit la personne, policier ou militaire, il doit aussi respecter comme tout le monde tel qu'on nous a instruit. Donc, nous commençons par nous-mêmes et la suite, c'est par la population.
Au Kwilu aussi, la police est instruite à appliquer et à faire appliquer toutes les mesures barrières telles que dictées par le président de la République. Le porte-parole de la police au Kwilu, Camille Atungale, qui le dit, fait savoir que tous les récalcitrants à ces mesures seront sanctionnés, seront contraints de payer des amendes suivant l'arrêté du gouverneur de province à ce propos. Le major Camille Atungale au micro de Irène Boma.
Le commissaire provincial a instruit tous les commandants à faire respecter ces mesures barrières conformes aux décisions prises par le gouvernement provincial du Kwilu à travers son arrêté provincial. La distanciation physique ou sociale est de rigueur. Les églises sont astreintes à réduire le nombre de participants à 50% de leur capacité d'accueil lors des cultes. Le taxi moto ne peuvent transporter qu'une personne. Le port obligatoire et correct de cache-nez ou masque. L'interdiction d'organiser les deuils dans le domicile familial, salle ou tout autre lieu public. La police nationale congolaise est appelée à respecter et à faire respecter toutes ces mesures et il est dit que tout contrevenant, quiconque donc ne respectera pas ces mesures, sera contraint de payer une amende. 20 000 francs congolais par exemple pour les cas de terrasse, 75 000 francs congolais pour les cas de bar, 100 000 francs congolais pour les cas de salles de fêtes et magasins et près de 10 000 francs congolais pour les cas de cache-nez, il y en a beaucoup.
Je vous le disais en titre, toutes les écoles et les marchés sont restés fermés ce lundi à Beni. C'est sur décision du maire de la ville après l'explosion hier des deux bombes artisanales dans cette partie du pays. Selon des sources sécuritaires, cette mesure sera évaluée après 48 heures. Martial Papi Mukeba, reportage.
La fermeture des écoles et des marchés de Beni va durer des jours, du lundi 28 au mardi 29 juin. Les rassemblements des personnes sont également interdits sur toute l'étendue de la ville de Beni. Ces décisions ont été annoncées annoncé tôt ce lundi matin à travers les radios locales par les maires de Béni. Tous les habitants sont également priés de se munir de leur carte d'identité partout où ils se trouvent. Selon le commissaire supérieur principal, Mouteba Kachalé, contacté par Radio Okapi, le couvre-feu décrété dimanche dans la soirée avec effet immédiat reste également en vigueur sur toute l'étendue de la ville. Des mesures prises pour faire face à la situation sécuritaire qui prévaut à Béni après l'explosion dimanche des deux bombes artisanales, l'une dans la paroisse catholique de Boutili et l'autre au quartier Mabakanga. Selon des sources sécuritaires, ces mesures seront évaluées après 48 heures par les services de sécurité, l'armée et la police qui travaillent conjointement avec la MONUSCO pour faire face à cette situation. Les bouclages et les perquisitions dans les différents quartiers de Béni ne sont pas à exclure, signale-t-on. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Et en rapport avec l'explosion de trois bombes artisanales qui ont coûté la vie à un homme à Béni, notez cette réaction de la chef de la MONUSCO dans un communiqué rendu public aujourd'hui. Bintou Keïta condamne fermement ces attaques lâches et cruelles, dit-elle, qui visent à semer la terreur et la confusion au sein de la population civile. Elle s'est dit consternée par ces attaques contre les édifices religieux qui constituent une atteinte inacceptable à la liberté de culte. Madame Bintou Keïta rappelle que les lieux de culte sont des sanctuaires propices à la communion et à la paix et non des sites d'effusion des sangs et des terreurs. Les auteurs de ces crimes, ajoute-t-elle, doivent être retrouvés et traduits devant les instances judiciaires. Pendant ce temps, le groupe FPP Cabido réitère son désir de déposer les armes et annonce la fin des exactions contre les populations civiles dans le sud Lubero. Le leader de ce groupe l'a fait savoir hier à Mwavinua au cours d'une rencontre avec une délégation conduite par l'administrateur de Lubero. Ce dernier invite ainsi tous les autres groupes armés à emboîter le pas. La société civile de Lubero salue cet engagement et appelle le gouvernement à accélérer le processus DDRC. Plus de détails avec Grâce Hamza.
Cette délégation de plus de 50 personnes était constituée des FARDC, de la police, des acteurs de la société civile, des chefs coutumiers et notables, ainsi que des ONG des droits de l'homme. L'administrateur du territoire indique que le chef milicien Kabido a confirmé sa volonté de déposer les armes. Ce chef milicien affirme que son groupe compte environ 870 éléments armés, notamment de fusils et d'armes blanches. À l'issue de cette rencontre, Kabido a appelé tous ces éléments actifs dans les différentes entités du sud et de Lubero à cesser les exactions contre les civils en attendant le lancement du processus DDRC. Le colonel Ndonda Mandongo Dona, qui s'est dit satisfait de cette réaction, appelle tous les autres groupes armés actifs dans la région à adhérer au processus de paix sous peine de subir la traque des forces loyalistes. La même satisfaction est manifestée par les acteurs de la société civile. D'après eux, cet événement marque le début de la restauration de la paix dans la région. Bayre Kekisusu, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile, invite ainsi le gouvernement à saisir cette occasion en vue de concrétiser le processus de DDRC. Boutembo, Grâce Amzati, Radio Kapi.
Dans l'actualité aussi, le coup d'envoi ce lundi à Lubumbashi du conclave pour la paix organisé par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga en collaboration avec le gouvernement de cette province. Objectif, mettre à nu les différents éléments qui créent des tensions et des divisions et enfin chercher des voies et moyens pour y mettre fin dans le but de favoriser le développement. Des précisions avec Jean Gandou.
La province du Haut-Katanga, qui est essentiellement minière, a en son sein une dizaine de tribus, en dehors des communautés venues d'autres provinces attirées par l'exploitation minière. Cependant, la recherche du mieux-être engendre des tensions entre communautés, rendant ainsi la cohabitation difficile, a indiqué Jacques Kiaboula, le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Ce dernier espère que les résolutions qui seront prises à l'issue de ce conclave vont contribuer à renforcer l'unité et partant le développement de la province. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a pour sa part indiqué que l'insécurité qui prévaut dans la province est hors norme, non obstant tous les moyens mobilisés par l'autorité provinciale. Pour Kyungu Akumwanza, cette insécurité touche toutes les catégories de la population et ne choisit pas des tribus. Voilà pourquoi il a dénoncé la manipulation des jeunes et l'activisme des miliciens qui n'ont qu'un seul objectif, déstabiliser la province. Il a invité les uns et les autres à cultiver la paix et la cohabitation pacifique et à bannir le séparatisme, le tribalisme qui ne favorise pas le développement de la province. D'où la nécessité de la mobilisation et de l'implication de tous pour y faire face. A noter que cette rencontre qui réunit plusieurs notabilités de la province a aligne plusieurs orateurs parmi lesquels les professeurs d'université, les membres de la société civile, les chefs coutumiers et autres. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Le gouvernement congolais réaffirme son engagement à promouvoir l'entrepreneuriat et l'artisanat pour la création d'une véritable classe moyenne en RDC. Eustache Mwandi, ministre de l'entrepreneuriat, l'a déclaré en marge de la célébration hier 27 juin de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises. Base de toute croissance économique véritable et inclusive, reconnaît le ministre, il est impérieux, dit-il, d'encadrer tout Congolais qui se bat dans ce secteur pour une prise en charge des communautés. Reportage de Billy Van Lutumba.
En réalité, la population souffre surtout cette couche de PME. Nous sommes vraiment par terre.
Dans une des émissions Okapi Service Radio Okapi, quant à l'impact de Covid sur les PME, ce petit entrepreneur ne cache pas son désarroi du fait du manque de financement des micro, petites et moyennes entreprises par l'État congolais. Cependant, en sa qualité de spécialiste en accompagnement et encadrement des entrepreneurs, Maître Kevin Shimata du cabinet Waram DRC déconseille de définir son entrepreneuriat sur des dons de l'État.
L'État doit mettre en place les cadres, inciter les banques à pouvoir donner des crédits à taux préférentiel aux entrepreneurs, inciter les autres financements provenant des autres structures. L'État ne peut être là comme étant régulateur.
Pour Eustache Mwanzi, ministre des PME, le gouvernement a déjà levé une option quant à ce.
Le gouvernement a adopté le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, dont la stratégie s'articule autour de trois objectifs. C comme capacité, C comme crédit et C comme contrat.
Et que va faire ce programme au profit des micro, petites et moyennes entreprises?
Mettre en place une politique de renforcement des capacités humaines et de promotion d'esprit d'entreprise. De faciliter l'accès au crédit par des accompagnements financiers plus favorables et diversifiés. Et enfin, de faciliter l'accès au marché tant public que privé.
Signalons qu'à marge de cette journée, le ministre Eustache Mwanzi est descendu sur quelques sites, regroupant quelques start-up et acteurs de micro, petites et moyennes entreprises avec qui il s'est entretenu.
Sachez aussi que dans environ une semaine, la RDC sera fixée sur son admission comme membre de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC. Précisons ce week-end à Goma du secrétaire général de cette organisation qui regroupe 6 pays de l'Afrique de l'Est avec la RDC. Ce week-end, le président Félix-Antoine Tshisekedi a lancé à Goma les travaux de vérification du dossier d'adhésion. Explication Bernard Nyangi.
Le secrétaire général de l'Eastern African Community a séjourné ce week-end à Goma. Le docteur Peter Matuki, à la tête d'une forte délégation, est venu assister au lancement des travaux de vérification de la demande d'admission de la RDC à cette organisation régionale. C'est en réponse à l'accord de principe donné par les 6 présidents des pays membres lors de leur sommet du 27 février dernier, conformément à la procédure EAC pour l'admission de nouveaux membres. Il ajoute que le président congolais Félix Tshisekedi a donné son accord pour le lancement des travaux de vérification en raison de nombreux bénéfices attirés de cette adhésion. Dr Peter Matuki.
Ensemble, nous deviendrons forts économiquement. Le peuple congolais bénéficiera des facilités de voyager dans d'autres pays membres sans visa, sans passeport. La RDC va nommer 9 membres du Parlement de l'EAC. Elle va aussi nommer les membres du corps des juges de la Cour de justice de l'EAC. Aussi, le mouvement depuis les ports de Dar es Salaam ou Mombasa sera facilité.
Après son adhésion, la RDC sera le 7e membre de l'EAC, joignant le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et le Kenya. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Entre-temps, une hausse de prix des produits de première nécessité est constatée depuis la fermeture des frontières entre l'Angola et la RDC à cause du coronavirus. C'est notamment à Popokabaka, territoire du Kwango qui fait frontière avec l'Angola, l'administrateur de ce territoire qui alerte évoque aussi le mauvais état des routes de dessertes agricoles comme autre raison de l'augmentation des prix. Irène Mboma nous raconte.
Cette hausse des prix de plusieurs produits de première nécessité manufacturés observés sur les marchés de Popokabaka est due premièrement au manque de routes de dessertes agricoles qui rend difficile les échanges commerciaux entre ces territoires voisins d'Angola et la ville de Kinshasa. Et ensuite, cela se justifie par la fermeture des frontières par l'Angola à cause de la pandémie à COVID-19. L'administrateur du dit territoire, Jean-Fidèle Yupama, joint au téléphone, explique-moi.
Le Kwango a une grande frontière avec la Angola. Et c'est là où peut-être on avait un peu de ravitaillement à produits de première nécessité, des produits manufacturés. L'Angola est dans le confinement et on ne peut plus rien faire. Mais nous nous contentons de notre république à partir de Kinshasa. Les routes de dessertes agricoles sont abandonnées pour atteindre Kinshasa. C'est ça ce qui fait la hausse des prix. Parce que le commerçant, quand il vient de Kinshasa, avec difficulté, il impose son prix. Nous sommes en train de tempérer parce que si on fait face à la rigueur de l'Europe, alors ça sera difficile.
Jean-Fidèle Ipama indique que cet état des choses rend très difficile la vie des paisibles citoyens de son territoire qui ne savent pas à quel saint se vouer. Il les invite à se prendre en charge en entretenant les routes afin d'essayer de débloquer tant soit peu la situation. Irène Mboma, Bande Ndouville, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
La Zambie est au bord d'une crise des droits humains, a déclaré Amnesty International lundi, alléguant que le président Edgar Lungu utilise des tactiques répressives pour obtenir un nouveau mandat lors des élections prévues le 12 août prochain. La Zambie a fait ses preuves en matière de tenue d'élections régulières depuis la réintroduction de la démocratie multipartite en 1991 par le président fondateur Feu Kenneth Kaunda, décédé à l'âge de 97 ans au début de ce mois de juin. Il a été largement salué comme un homme d'État et une figure paternelle vénérée. Pays de 18 millions d'habitants, la Zambie a acquis la réputation d'une démocratie stable sur un continent où les élections débouchent souvent sur des conflits.
L'invité.
Comme promis, Radio Capi vous propose durant cette semaine des témoignages, analyses et débats au sujet de l'indépendance de la RDC célébrée le 30 juin depuis 1960. Ce soir, nous recevons Sabin Sadiboko, 58 ans, haut fonctionnaire de l'administration publique et inspecteur provincial de la territoriale pour le Congo central. Dans son analyse, il affirme que lors du discours du 30 juin 1960, le roi des Belges, Baudouin Ier, avait mis en garde les ténors de l'indépendance de la RDC concernant les réformes active au sein des institutions du pays. Par ailleurs, il déplore le fait qu'après l'accession de la RDC à l'indépendance, les secteurs économiques et sociaux ont été abandonnés. Sabin Sadiboko s'entretient avec Nana Pleurish Mambou.
Monsieur Sabin Sadiboko, bonjour.
Bonjour.
Vous n'avez pas vécu l'indépendance de 1960, mais vous avez côtoyé les acteurs de la dite indépendance. D'après vous, l'entrée de la RDC dans les concerts des Nations Libres en 1960 était opportune ou hâtive?
Je peux répondre par oui et non. Pourquoi? J'ai fait un petit recul. En 1955 est à Paris le plan Van Bilsen qui projetait l'indépendance ou l'émancipation du peuple congolais. Ils ont estimé que le peuple congolais sera mûr pour acquérir son indépendance. Je l'ai dit pourquoi? Parce que dans la colonie francophone, on a déjà commencé le peuple noir d'Afrique pour l'indépendance dès 1946, et ce qui ne s'était pas fait chez nous. Mais nous évoluons à côté d'autres pays. Il y a des mouvements d'indépendance qui naissent à travers toute l'Afrique et on constate qu'au Congo, il y a un recul, rien ne semble bouger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un éveil de tous les Congolais vers les années 54, 55, 56. On est allé jusqu'à arriver en 1959 où il y a eu ce qu'il devait y avoir et ça nous a conduit un peu dans la précipitation à l'accession à l'indépendance. Mais les Belges ne nous ont pas préparés pour l'indépendance de 1960, mais nous ne pouvons pas non plus accepter que tous les pays qui nous entourent dans l'Afrique accèdent à l'indépendance dans les années 60 et que nous, nous soyons restés derrière tout le monde. Donc, ça peut être oui, évidemment, parce que tout le monde accédait à l'indépendance, nous si on devait accéder, mais ça peut être non, parce qu'on n'était pas préparé.
Oui, Monsieur Sabin, dans les discours de Baudouin Ier, le roi des Belges, prononcés lors de la cérémonie de l'indépendance en 1960 au Palais de la Nation, celui-ci avait déclaré, je cite, « Ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives ». Fin des citations. Par là, Monsieur Sabin Sadiboko, quelles sont les réformes que la RDC a faites? Celles-ci ont abouti en quoi aujourd'hui?
Les réformes, il y en avait eu nombreuses. Pourquoi? D'abord, je parle de l'armée. Nous avons voulu nationaliser l'armée et pourtant on n'avait pas de cadres préparés dans l'armée. Et cela nous a conduit là où ça nous a conduit. Je peux parler encore d'une deuxième réforme, c'est dans le secteur économique. Le 30 juin, nous allons célébrer l'indépendance politique de la République démocratique du Congo, mais on parle peu de l'indépendance économique. Nous parlons de la table ronde politique de 1960, mais nous parlons peu des tables rondes économiques de 1960. Il y a eu aussi une table ronde économique, mais malheureusement nous l'avons négligée. Nos leaders de l'époque, après avoir négocié l'indépendance politique, ils ont pratiquement abandonné le dossier économique. Quand on a acquis l'indépendance politique, mais évidemment juste après, on devait avoir un peu l'argent pour gérer l'État nouvellement acquis. Et on a constaté qu'on avait mal négocié négocier la table ronde économique et vous prenez tous ces éléments mis ensemble. Ça nous a conduit évidemment à beaucoup de difficultés qui malheureusement continuent à perdurer jusqu'à ces jours. Santé, éducation, logement. On a connu pas beaucoup de réformes mais des relâchements dans la gestion. Et ces relâchements, c'est jusqu'aujourd'hui.
Vous savez, dans ces mêmes discours, le roi belge a aussi dit, je cite, « Ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique tant que vous n'êtes pas certain de pouvoir faire mieux. » Fin des citations. Est-ce que la RDC a remplacé certains organismes laissés par les Belges?
Généralement pas. Il y avait beaucoup de structures que les Belges ont laissées, surtout dans le domaine des santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du mouvement, surtout le mouvement des jeunes. Nous n'avons pas remplacé, mais seulement nous avons failli dans la gestion. Et je prends par exemple dans le domaine de la santé où on parlait des forêts amies qui assistaient certains organismes sanitaires. On a failli dans sa gestion. Les mouvements des jeunes aujourd'hui, ça n'existe plus. Des mouvements comme des Lurito, les scouts, ainsi de suite. Et je prends notre secteur, par exemple, les logements. Nous avons failli et nous avons amené l'ONEL, Office National des Logements, en faillite. Aujourd'hui, le pays n'a pas d'Office National des Logements. Et en termes de logements, nous acquisons un déficit criant de 2 millions de logements par année. Chacun se débrouille, il construit sa maison à sa façon. Et deux, on construit où et comment? Chacun se construit comme bon lui semble. Conséquence, mauvaise urbanisation de la ville, érosion, inondation.
Sabin Sadiboko, vous êtes inspecteur provincial de la territoriale au Congo central. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité était avec Nana Pluriche Mambou. Ce journal est terminé. Vous pouvez le réécouter sur notre site www.radiocapi.net. L'information en continu, c'est sur toutes les plateformes numériques de Radio Capi. Merci de nous rester fidèles.